Merci beaucoup les enfants. Merci pour ce très joli chant. Très facile à chanter en plus, hein, on pourrait presque le reprendre avec eux, tellement il était simple, mais profond. Il est venu pour sauver. Ce matin, c'est ce qu'on fête à Noël. On fête la naissance de Jésus, de ce Sauveur qui est venu pour nous sauver. C'est ça le vrai sens de Noël. Parce que Noël, ce n'est pas juste une fête commerciale. Ce n'est pas juste une fête de famille. Même si c'est bien les fêtes de famille. Même si c'est bien les fêtes où on se fait des cadeaux. Je me suis rendu compte au travail, par exemple, que de plus en plus, on nous dit, il ne faut pas dire « joyeux Noël ». Il faut dire « joyeuse fête de fin d'année ». Oui, mais c'est quand même Noël. Mais souvent, on ne parle plus de ce qui fait le vrai sens de Noël. Je suis sûr que même tous les enfants ici et qui vont rester avec nous tout le culte, je suis sûr qu'ils connaissent déjà tous les chansons de Noël qu'on entend à la radio, qu'on entend au marché de Noël. Vive le vent, petit papa Noël. Vous connaissez les enfants? Ouais, bah oui. Non? Non? Oh, les menteurs. Et Mariah Carey, cette superbe grande chanteuse, eh bien, dans sa chanson, elle ne parle même pas de Jésus. C'est vrai, Noël, c'est un temps pour donner, c'est un temps pour faire des cadeaux, c'est un temps pour la paix dans le monde. On se croirait presque à Miss Monde, Miss France, Miss... Mais ce matin, on veut vraiment souligner le vrai sens de Noël. C'est vrai que Dieu, que Jésus est venu apporter la paix dans le monde, mais une paix particulière, et on va en parler tout à l'heure. On ne veut pas cacher Jésus ce matin, on veut le montrer. Comme on l'a lu tout à l'heure et comme l'a souligné Jean-Noël, Jésus c'est celui qui est prévu de tout temps, celui qui est annoncé depuis longtemps, celui qui est réalisé depuis longtemps. Et c'est un cadeau pour nous aujourd'hui, mais depuis très longtemps déjà aussi. Jésus c'est ce Sauveur venu sur la terre afin qu'on puisse être chacun de nous, qu'on puisse être sauvé. C'est ce Sauveur qui a été donné pour que, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Si je devais résumer en une phrase la Bible, ça serait « Dieu crée l'humanité, elle se rebelle, mais Jésus vient pour la sauver, pour la restaurer. » J'ai appris cette petite phrase par cœur qu'un évangéliste avait donné, parce que des fois je me suis rendu compte que quand je parle à mes collègues, j'ai juste 10 mots pour leur dire ce que c'est l'évangile, ce que c'est la bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle c'est ça. Dieu a tout créé, a créé l'humanité. Mais l'humanité s'est rebellée. Et Jésus vient pour la sauver. Alors ce matin les enfants, j'aimerais vous dire quelques vérités. Parce que je crois qu'il y a des choses fausses qu'on vous dit en fait. Que peut-être vous avez entendu à l'école, j'espère pas de vos parents, mais... Alors, pardon aux parents qui ne seraient pas d'accord avec moi, mais tant pis pour vous. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. Alors, les enfants, vous savez, en fait, le Père Noël, il n'existe pas. Et en fait, la petite souris, tu sais, qui vient te donner 1 euro, 2 euros, quand tu laisses une dent sous l'oreiller. Mais voilà, c'est les parents. Bon, bah ça va, j'ai vu que... Je vois que vous avez déjà fait le boulot, c'est bien. Alors ce matin, ensemble, on va continuer un peu le parcours dans l'évangile de Luc. Hervé nous a lu le texte tout à l'heure de Luc, le chapitre 2. Et on est dans une série de messages où justement on regarde au texte de la Bible pour y trouver les promesses, les vérités de Dieu pour nos vies. On ne veut pas de ces vérités fausses, de ces mensonges pour nos enfants, et on ne veut pas de mensonges pour nos vies. On veut savoir quelle est la vérité de Dieu pour nos vies. Et donc, comme ça a été dit depuis quelques dimanches, aujourd'hui, on est à la fin de la saison 1 de l'évangile de Luc. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, au début de l'évangile de Luc, nous amène à l'événement de la naissance de Jésus. Et Luc, on l'avait vu le premier dimanche avec Jean-Jacques, Luc, ce médecin, il n'a pas été un témoin direct de la vie de Jésus, mais il s'est renseigné très précisément comme un vrai scientifique. Et il dit, voilà, il écrit à son ami Théophile, et dit, voilà, tu as peut-être déjà entendu beaucoup de choses, on t'a enseigné sur la Bible, mais je veux que toi tu reconnaisses que tout ce que tu as entendu, que tout ce qu'on t'a enseigné est juste, est exact. Vous savez, les enfants, vous n'êtes pas juste obligés de croire ce qu'on vous dit. Vous pouvez et vous devez aussi, vous, chercher à voir si ce qu'on vous raconte à l'école, à la maison, si c'est vrai. Et justement, quand on parle de la naissance de Jésus, on peut regarder dans la Bible, voir si ce qui est raconté, si c'est vrai, si c'est une vraie histoire. Dieu veut qu'on n'ait pas juste nos têtes qui soient remplies de bonnes choses, mais il veut aussi que nos cœurs soient touchés. On l'a vu dimanche dernier avec Eddie, qui nous a rappelé combien Dieu voulait que des cœurs soient touchés. Comme Zacharie, qui ne croyait pas au début, qui durant le temps où Jean-Baptiste était dans le ventre d'Élisabeth, durant ce temps-là, il a pu réfléchir, il a pu comprendre, il a pu accepter ce que Dieu, le plan de Dieu aussi pour sa vie, pour lui, pour sa famille. Accepter que son fils allait être le prophète qui annonçait, qui allait préparer le chemin du Seigneur. Et aujourd'hui, avec ce dernier épisode de la saison 1 de l'Évangile de Luc, on va voir que Jésus-Christ, eh bien, sa naissance, elle est bien réelle et que son cadeau est éternel. Sa naissance est bien réelle et son cadeau est éternel. Vous avez entendu tout à l'heure le texte de Luc. Il ne commence pas avec une petite phrase comme on pourrait entendre dans bien des histoires. Il était une fois un petit garçon. Non, 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 ça ne commence pas comme ça. Ça commence en ces jours-là, parut un décret. César Auguste décrète que toutes les personnes de l'Empire romain doivent se faire enregistrer. Il veut savoir combien il y a de personnes dans son empire. César Auguste, vous connaissez les enfants ? Vous connaissez Jules César ? Alors c'est un autre César, c'est pas le même. C'est un autre César qui était probablement un des plus grands empereurs de toute la Rome de l'époque, de tout l'Empire romain de l'époque. C'est un empereur avec lequel il y a eu plus de 40 ans de paix. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, la paix romaine ou la Pax Romana. C'est César Auguste. Il a fait en sorte qu'il y ait la paix dans son empire. Mais il voulait quand même savoir combien de sous il pouvait un peu avoir avec tous ces gens-là. Combien d'armées il pouvait lever si jamais il fallait aller combattre des barbares. Donc il fait ce premier recensement, le premier du genre. Il n'y avait jamais eu de recensement comme ça avant lui. Ce qui est marrant dans ce texte de Luc, c'est qu'il y a ce roi, cet empereur, ce César Auguste, et à côté un petit enfant. Celui qu'on appellera le roi des rois. Mais pour l'instant, il est juste là, comme un bébé. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est qu'il y a deux décrets, deux ordres. Celui de César qui fait ce premier recensement. Et puis il y a un autre qu'on ne voit pas bien, mais qui est là, où au moment fixé, les choses arrivent. Au moment fixé par Dieu, les choses arrivent. Au moment où ils sont à Bethléem, Marie accouche. Et par ce biais-là, la prophétie qu'on a lue tout à l'heure dans Michée, quelques siècles avant, se réalise. On se rend compte que, quel que soit l'empereur qui décide, c'est Dieu qui agit. Joseph et Marie sont des personnages bien réels. On a même des généalogies. On lit ici qu'ils sont des descendants de David. Mais alors, j'ai vraiment une question. Je ne sais pas si ça vous frappe quand on lit ce texte. Hervé a mis l'accent un peu dessus tout à l'heure. Quand Marie accouche, Luc nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des voyageurs. Alors, je viens de dire que Dieu fait ce qu'il veut, il agit au travers même des grands de ce monde. Et puis on lit qu'il n'y avait pas de place. Mais Dieu, tu t'es trompé ou quoi? T'as oublié qu'il y avait Joseph, Marie et Jésus? Toi qui décides tout, toi qui fixes en ton temps tout ce qui se passe, tu as oublié une place pour Jésus? Est-ce qu'il y a là une erreur, un oubli de Dieu? Ou est-ce que c'est quand même Dieu qui décide tout? Est-ce que c'est quand même Dieu qui... Est-ce qu'il a peut-être fait exprès de faire cela? Ouais. Dieu, il est venu dans les conditions les plus humbles, dans une famille pauvre. On va voir après qu'il s'est montré, qu'il s'est révélé à des gens les plus simples, des bergers. Dieu a choisi que son fils vienne loin des rois, loin du prestige, loin des caméras télé. Et en fait, je crois, ce que nous pouvons croire, je pense ce matin, c'est que si Dieu a fait cela, c'est parce qu'il veut montrer à quel point il s'est abaissé vers nous. C'est pas juste par hasard s'il n'y avait pas de place pour Jésus et sa famille. Parce que quand Dieu vient dans le monde, il n'y a personne qui lui fait une place. Il n'y a personne qui veut, à premier abord, faire une place à Dieu dans sa vie. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu nous montre à quel point il s'est abaissé, et en même temps aussi, on lit plus loin dans les évangiles, que c'est Jésus lui-même qui, en remontant vers son Père, nous prépare une place à ceux qui croyons en lui. Il n'y avait pas de place pour Jésus, mais lui, il veut te faire une place pour toi auprès de Dieu. J'aime bien un cantique où ça sonne bien la trompette, à l'agneau sur le trône. Et il y a une petite phrase dans ce cantique qui dit « Ô sagesse profonde, le créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. » Dieu est venu comme un petit enfant pour accomplir son projet. Je sais que cette semaine, il y en a qui sont allés voir le dernier Star Wars. Jean-Jacques notamment. Avec son grand. Peut-être d'autres l'ont vu. Peut-être vous êtes déjà allé voir d'autres films. Je sais que, en tout cas, les miens sont fans des Avengers, etc. Les films avec des super-héros. 30 secondes. Vous êtes Dieu. Admettons. Vous avez un plan de sauvetage pour l'humanité. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous envoyez votre super-héros pour sauver l'humanité? Moi, j'aurais bien vu un truc du genre, un peu comme le surfeur d'argent, pour ceux qui connaîtront la référence. Le gars qui arrive du ciel, qui descend, qui arrive un peu mystérieux, qui arrive devant Jean-Baptiste. D'où tu viens? Je viens nulle part. Ça aurait rajouté un peu du truc, je sais pas. Dieu ne sait pas du tout ce qu'il a fait. Dieu, il est venu comme un petit enfant. La semaine dernière, on mangeait ensemble avec le gros de maison. Et pour la première fois, j'ai pu prendre Arthur dans les bras. Pas longtemps, parce qu'après, il voulait sa maman. Mais c'est tout fragile. J'avais encore le souvenir des miens, mais c'était il y a quelques années. C'est tout fragile, un bébé. Moi, quand j'ai eu mes garçons, j'avais une prière. C'est que je voulais qu'ils soient assez gros et assez grands. Parce que j'avais peur de les casser. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un bébé qui fait au moins 4 kilos et au moins 55 centimètres. Ils ont fait tous 4 kilos et 53, 54 centimètres. Oui, ce qui m'avait traumatisé, c'est quand j'étais allé à la maternité, à la première visite avec Sophie, on nous a fait visiter le service de néonates, où il y a les petits bébés qui ont quelques semaines, plusieurs mois d'avance. Ça va l'air. C'est tellement fragile. Alors moi, je voulais un gros bébé. Mais même quand c'est un gros bébé, ça reste fragile. La première fois où Corentin s'est retourné sur sa table à langer, j'étais pas prêt. Il s'est retourné pendant que je cherchais une couche. Je me suis retourné, il était en l'air. Je l'ai attrapé par le pied. Merci Seigneur. Remontons-le vite. Mais Jésus est passé par là. Ben, je ne sais pas comment ça s'est passé pour Marie et Joseph, mais il y a dû y avoir des histoires comme ça. Dieu a choisi d'envoyer le Sauveur comme un petit bébé. La chose la plus fragile. La chose qui s'impose le moins. Au travers de cette venue, de cet enfant, Dieu nous parle d'une manière toute particulière. Peut-être que toi, ce matin, tu es un peu comme Marie. Marie, elle a eu un ange qui est venu la voir quelques mois, 6 mois avant la naissance. Il y avait un ange, plus que 6 mois, 9 mois. Et depuis, c'est rien passé pour Marie. Elle est peut-être là en train de se dire, mais attends, mais on se retrouve à Bethléem, on n'est pas à la maison, j'accouche. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ce matin, vous êtes dans la même situation. Vous ne comprenez pas le sens de votre vie. Je vous lis ces deux proverbes. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige tes pas. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplira. Tu ne connais pas, je ne connais pas tous les projets de Dieu pour ma vie, pour ta vie. Mais est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? À ce Dieu qui nous montre combien il s'abaisse en venant comme un petit enfant. Et Dieu nous parle. Dieu nous parle au travers de sa parole, mais pas seulement. Alors, je ne sais pas comment vous pensez que Dieu nous parle. Cet été, avec les enfants, on était près de Toulouse et du coup, on a profité pour aller à la Cité de l'Espace. Et puis, on a vu plusieurs vidéos, plusieurs expositions. Et il y a notamment, j'ai pensé à cette chose avec ce premier homme dans la Lune, dans l'espace, pardon, ce Russe, Gagarine. Et quand Yuri Gagarin est monté dans l'espace, le ministre russe, certains s'en rappellent peut-être de l'époque, pardon, c'était il y a longtemps, hein, c'est pas pour les enfants. Le premier ministre russe à l'époque a profité pour dire que Gagarin était monté dans l'espace et il n'avait pas trouvé Dieu, donc Dieu n'existait pas. Ah, on est allé dans l'espace, on n'a pas vu Dieu, donc Dieu n'existe pas. Et puis il y a un célèbre écrivain chrétien qui lui a répondu à ce premier ministre à l'époque et qui expliquait, et je le dis avec mes mots, que en fait Dieu il communique pas avec les hommes comme le voisin du deuxième communique avec le voisin du premier. C'est pas hey, allô, comment tu vas? Oh Manu, tu descends? C'est pas comme ça. Il y en a qui comprennent, c'est bien. Il y en a qui riront tout à l'heure peut-être, je sais pas. Dieu, il parle pas comme le deuxième au premier. Dieu, il parle comme, c'était l'image de C.S. Lewis, comme Shakespeare avec Hamlet, comme un auteur avec son personnage. Le personnage d'une pièce de théâtre, il ne connaît de l'auteur ce que l'auteur, il veut lui dire dans la pièce de théâtre. Sinon, le personnage de la pièce, il ne connaît rien de l'auteur. Dieu, il a fait plus que nous dire des choses sur lui dans la Bible. Dieu, il est venu comme un homme en la personne de Jésus. Il est venu comme un homme pour vivre comme nous. Pour qu'on puisse voir son amour, voir sa grâce, voir sa compassion, voir comment il parlait aux pauvres, à ceux qui étaient malades, à ceux qui étaient blessés. Noël, c'est pour tous ceux qui sont imparfaits, en fait. Pour tous ceux qui sont fatigués. Noël, c'est Dieu qui montre son amour. Alors, j'ai dit tout au début que le cadeau de Dieu, il était éternel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on lit la naissance de Jésus dans Luc, et notamment le passage avec les bergers, on se rend compte que quand les anges parlent aux bergers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les enfants, quand les anges, quand l'ange parle aux bergers? Oui? Ils ont peur! Ils sont effrayés! Ben, normal, non? C'est pas tous les jours hein, qu'ils voyaient des anges. Ils ont peur, ils sont effrayés. C'est dit qu'il y a la lumière de la gloire de Dieu qui resplendissait. Ça devait être effrayant. Et l'ange de leur dire, mais n'ayez pas peur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette bonne nouvelle, c'était une nouvelle toute particulière. C'était une nouvelle comme, on aurait pu dire à l'époque, une grande victoire de l'empereur César Auguste. Ou comme l'arrivée d'un nouveau roi. Et en fait, c'est ça. Dieu, il a pris ses bergers, ces gens qui étaient les plus simples de l'époque. Il faut savoir que les bergers, à l'époque, on considérait qu'ils étaient tellement en bas de l'échelle sociale que même leur témoignage n'était pas recevable devant un juge. C'était vraiment les cassos. Mais Dieu s'adresse à ses bergers. Et il fait de ces bergers des témoins. Il leur demande d'annoncer, en fait, cette bonne nouvelle qui n'est pas que pour eux, elle est pour tout le peuple. Il leur donne un signe où ils pourront vérifier que ce qu'il leur a dit, c'est bien, ce que l'ange leur a dit, c'est bien ça. Vous trouverez le bébé emmailloté et posé dans une mangeoire. Et ce qui est frappant avec ces bergers, c'est que ils passent d'une grande peur à une grande joie. Alors pour une grande joie, pour une vraie joie, il faut s'appuyer sur quelque chose qui est vrai, qui est solide, qui est réel. Et l'ange leur dit que ce Jésus, ce bébé, sera le sauveur, le Messie. Celui qui était annoncé depuis des siècles, qui venait pour sauver l'humanité. Et ce Jésus, il est le Seigneur. Peut-être que parce que c'est des bergers qui parlent, ceux qui étaient là ont tout simplement été étonnés. Vous avez entendu tout à l'heure dans le texte, les gens autour, qui étaient autour de Joseph et Marie, s'est dit qu'ils étaient étonnés. Ils n'ont pas cru. Ils étaient surpris que ce soit des bergers qui annoncent ce sauveur, ce Messie. On a peut-être plus de mal à croire un message quand le messager ne nous paraît pas très potable. C'est probablement ce qui s'est passé là. Mais il faut réussir à voir au-delà des messagers. Il faut réussir à voir le contenu du message. Comme je disais tout à l'heure, Marie, à qui l'ange a parlé, mais qui a dû ensuite subir sûrement les moqueries dans son village, les regards des gens, enceinte, pas mariée, et qui se retrouve à accoucher loin de la maison, et en plus il n'y avait pas de place pour eux. Vous imaginez le bien fou que ça a dû être quand les bergers sont arrivés? Ce qui vient de se passer, en fait, c'est voulu par Dieu. C'est comme ça que Dieu l'avait prévu. Et c'est pour ça qu'on lit dans Luc que Marie repensait souvent à ce qui venait de se passer. Marie gardait dans son cœur. Et je me suis dit, mais pour nous ce matin, depuis cette dernière année, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Il y a sûrement eu plein de choses difficiles. Plein de choses que vous n'avez pas compris. Est-ce que c'est ces choses-là que vous gardez dans votre cœur, que vous choisissez de garder dans votre cœur pour les ressasser, pour tourner en rond dessus? Ou est-ce que vous choisissez de garder dans votre cœur ce que Dieu a fait pour vous? Peut-être l'année était noire, très noire, mais que si vous levez les yeux vers Dieu, vous verrez que quand même Dieu vous a gardé, vous a préservé. Et si vous ne le voyez pas tout seul, peut-être vous avez besoin qu'une autre personne vienne vous encourager, vienne te dire « Mais écoute, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça m'a aidé aussi pour ça ou pour ça. » Et que vous soyez encouragé. Si je donnais le micro ce matin à plein d'entre vous, je suis sûr que vous auriez plein de choses à dire de comment Dieu vous a gardé, vous a béni durant cette année. Alors, est-ce que nous, on peut aussi garder les promesses de Dieu, garder les bénédictions de Dieu pour nous, les garder dans notre cœur pour y repenser et ne pas cultiver d'amertume, de haine ou d'autres choses liées à ce qui vient de se produire dans nos vies? Je ne dis pas que c'est simple. Je sais que c'est difficile pour beaucoup. Vous perdez un travail, vous perdez quelqu'un de votre famille. Et c'est dur. Mais est-ce que vous voulez bien regarder à ce que Dieu a fait pour vous durant cette année? Parce que si on n'y arrive pas, on demande à Dieu de l'aide pour ça. Parce que quand on fait ça, mais il se passe ce qui s'est passé pour les bergers. Les bergers sont partis, ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. La louange, c'est quelque chose qui sort du cœur, l'enthousiasme du cœur. Ce matin, quand on est venu, je suis venu un peu en avance avec Marius, parce qu'il devait répéter pour le chant des Toujours Heureux, qui vont chanter tout à l'heure. Et Marius, je vais dire une chose, il n'aime pas trop chanter. Mes garçons, en général, n'aiment pas trop chanter. Je suis frustré des fois, parce que moi, j'aime bien chanter. Mes garçons n'aiment pas chanter. Mais ils aiment danser. Vous ne les avez jamais vus danser, mais à la maison, je peux vous assurer que quand on met de la musique, ça ne chante pas, mais ça danse. Quand mes garçons dansent, ils traduisent l'enthousiasme qui est en eux et qu'a produit la chanson, la musique, ou ce que leur a dit. C'est comme ça qu'ils montrent leur enthousiasme. Chanter et danser, ou chanter ou danser, les deux expriment notre louange, notre joie. Et même quand on n'aime pas trop chanter, comme Marius, je ne sais pas où il est là, il va quand même chanter de tout son cœur tout à l'heure avec Corinne et avec les Toujours Joyeux. Quand on chante, quand on danse, on montre l'enthousiasme qui est dans notre cœur. C'est un mélange de joie, un mélange d'admiration. Souvent, qu'est-ce que font les enfants? Ils reproduisent les danses qu'ils ont vues dans un jeu, à la télé. Pour ceux qui connaissent, les enfants, ils connaissent là, Fortnite. Qu'est-ce qu'il fait le gars quand il gagne, quand il réussit quelque chose? Il fait une danse. Il fait une danse. Et tous les enfants font la même danse. C'est pour exprimer leur joie. Alors quand on est en admiration devant Dieu, devant le cadeau qu'il nous a fait en la personne de Jésus, on peut être joyeux. On peut chanter, louer Dieu. Et ce cadeau, il a, dans l'évangile de Luc, une chose toute particulière. Je vous ai dit tout à l'heure que César Auguste, c'était le César, c'était l'empereur de la paix romaine qui a duré durant 40 ans. Quand on chante les chants de Noël, on dit Jésus, paix dans le monde. Alors, juste petit cours d'histoire, en 2 secondes et demie. Est-ce que depuis 2000 ans, il y a la paix dans le monde? Ah, alors ce qu'on chante, c'est faux? Expliquez-moi alors. La paix que Dieu propose, c'est la paix dans ton cœur. La paix que Dieu propose, en fait, c'est un traité de paix entre toi et lui. D'abord entre toi et lui. Le cadeau éternel que Dieu a pour toi, c'est un traité de paix. C'est une paix profonde dans ton cœur, dans ta vie, parce que tu es réconcilié avec Dieu. Et quand cette paix est en nous, on peut aussi vivre en paix entre nous. Mais depuis 2000 ans, ce n'est pas la paix dans le monde, dans le sens où il n'y a plus de guerre. Les humains continuent à être rebelles à Dieu. Nous aussi, parfois, on continue à être rebelles à Dieu. Mais on doit dire, non Seigneur, je veux te faire confiance pour toute ma vie, pour tous les domaines de ma vie. Je veux être en paix avec toi. Et c'est ça, le cadeau éternel de Dieu. J'aimerais prier pour conclure. Seigneur, merci parce que tu es venu parmi nous. Tu es venu comme un petit enfant pour nous montrer combien tu étais prêt à t'abaisser, à te mettre à notre niveau, au plus petit d'entre nous. Tu as choisi de venir comme un enfant. Tu nous as fait ce cadeau et nous voulons ce matin te remercier, te rendre gloire, te dire combien on est reconnaissant de pouvoir être aujourd'hui aussi, nous, de tes enfants, de ceux qui acceptent ce traité de paix. Et Seigneur, ce matin, s'il y a des personnes dans cette salle qui n'ont pas encore signé ce traité de paix avec toi, je te prie qu'elles puissent vraiment, durant ces périodes de Noël, se mettre à genoux devant toi. Te demander pardon pour leur rébellion contre toi. Il y a tellement de choses qui leur ont fait mal dans leur vie, mais toi, tu es celui qui guérit les cœurs, qui guérit les âmes, qui guérit même les corps. Seigneur, tu rétablis et tu fais que les gens deviennent de tes enfants quand ils mettent leur confiance en toi et qu'ils acceptent ce traité de paix. Seigneur, merci pour ce cadeau. Merci pour la joie que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons chanter cette joie. Nous voulons proclamer cette joie. Nous voulons que, autour de nous, les gens connaissent le Dieu vrai et vivant qui est venu sur terre en la personne de Jésus, qui est venu alors qu'il n'y avait pas de place, qui est venu pour nous faire une place, qui est venu pour aller jusqu'à la mort de la croix, pour payer le prix de nos fautes, pour qu'on puisse être sauvés, qu'on puisse être en paix avec toi. Merci Seigneur pour tout cela. Et je vais te demander de toucher encore les cœurs ce matin, des petits comme des grands. Amen.